Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Et on se retrouve dans un tout petit instant pour commenter l'actualité. Y aura-t-il un couvre-feu qui sera instauré dans certaines villes? Vous l'avez entendu dans le journal à l'instant, dans les villes où le virus circule le plus. Peut-être que c'est ce qu'annoncera le président de la République demain. Champigny-sur-Marne, où en est-on? Quelle suite? Le gouvernement bien démuni face à cette violence. Et puis encore une taxe sur l'essence. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et nous commentons l'actualité aujourd'hui avec Franck Marguin, conseiller régional LR d'Île-de-France. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Natacha Amy, vous êtes conseiller en communication. Bonjour. Bonjour. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne.
Bonjour.
Et on vous retrouve tous les mardis matins dans le Grand Matin Sud Radio pour un édito politique.
Ce matin, l'édito a fait réagir Marlène Schiappa.
Ah bon? C'était sur quoi?
Je parlais de son plan anti-délinquance.
Ah, et alors, elle a dit quoi?
Elle a dit original avec un smiley lol. Elle m'a répondu sur Twitter, c'était assez drôle.
Ah, très bien. Bah, écoutez, voilà. Et c'était ironique, si elle nous écoute,
je sais
parce
pas.
Parce que vous l'avez taclé dans votre édito ou...
Bah, j'ai dit que c'était un peu une rustine, son plan anti-délinquance, mais on va peut-être
en parler. Ouais. Absolument. Bah, moi, j'avais un coup de cœur pour Marlène Schiappa, figurez-vous.
J'espère qu'elle nous écoute.
Et Pierre Jouvet est en ligne, bonjour, porte-parole du Parti Socialiste, porte-parole du PS et maire de Saint-Vallier dans la Drôme. Bonjour à vous.
Bonjour.
Il fait beau dans la Drôme ?
Il fait très beau aujourd'hui dans la Drôme.
Bon, bah tant mieux, parce que nous, à Paris, à la capitale, il pleut. Champigny-sur-Marne, quelle suite ? Les syndicats de police doivent rencontrer le président de la République. On va voir ce qui peut en ressortir. C'est vrai qu'interdire les mortiers d'artifice, ça ne va pas régler le problème. Que peut faire l'État face à cette violence ? Covid vers un couvre-feu, c'est sur toutes les lèvres. Alors peut-être que le président de la République nous surprendra demain. En ce moment même, un conseil de défense est en train de se tenir à l'Élysée. En tout cas, c'est ce qui semble se préparer. Et puis, une nouvelle taxe sur l'essence. Le gouvernement reviendrait-il sur ses engagements? Commençons par notre petit tour de table de vos coups de cœur, vos coups de gueule. Bah, Alexis, commençons avec vous.
Ah bah moi, c'était un coup de gueule sur les taxes, justement, puisqu'on apprend que 40 députés de la majorité En Marche souhaiteraient que tout le monde paye la redevance, y compris ceux qui n'ont pas la télé chez eux, parce qu'après tout, c'est vrai que maintenant on regarde la télé ou les supports sur n'importe quel support écran. Et voilà leur petite idée pour faire rentrer un impôt par la petite porte en disant qu'on n'invente pas de nouveaux impôts, qu'on baisse les impôts. Mais en fait, non. Preuve en est, on cherche toujours à en rajouter. Et puis la redevance, c'est quand même un truc, effectivement. Alors peut-être penser à une autre taxe, la taxe GAFA par exemple, plutôt que de faire payer les consommateurs, faire payer ceux qui fournissent les tuyaux. À un moment, il faut peut-être revoir. Si on veut taxer, taxons malin.
Oui, bah écoutez, et donc ça c'est en préparation,
Non, c'est une idée, mais je pense que c'était un ballon sonde pour voir un peu jusqu'où ça pouvait aller, mais après tout...
Dans ce cas-là, baissons la redevance télé.
Ben voilà.
Hein, c'est ce qu'il faudrait.
Bah, soit on baisse pour tout le monde et voilà, soit on trouve autre chose. Bref, mais voilà. Jamais à court d'idées.
Natacha Amy, c'est un coup de cœur.
Oui, c'est un coup de cœur.
Rapprochez-vous du micro.
C'est un coup de cœur pour Bernard Tapie, parce que, alors évidemment, Bernard Tapie ne fait pas l'unanimité, mais j'ai trouvé que dans la reprise du procès en appel de ce que l'on appelle évidemment l'inénarrable affaire Tapie, qui nous tient en haleine, feuilleton juridico, politico, financier depuis 25 ans, et bien que Bernard Tapie, malgré la maladie, malgré l'affaiblissement physique, il reste Tapie, c'est-à-dire toujours combatif, toujours pugnace, toujours hâbleur. Il y était, parce que c'est son combat, il y était, et c'est le seul qui a pris la parole, et tel qu'il est, c'est-à-dire en grand communiquant, il a juste dit « si on ne peut pas évoquer l'affaire Adidas, je me cache, je n'ai rien à vous dire ». Alors évidemment, avec un peu moins de voix, puisqu'il n'en a plus. Et ce petit coup de cœur, bah, c'est un peu parce que dans un moment où on ne rit plus beaucoup, ça m'a renvoyé aux grandes heures des guignols et notre nanar qui nous a tant fait rire. Ouais. Et Dieu sait que depuis quelques temps, quelques mois, on ne rit plus beaucoup. Donc c'était... merci nanar parce que et merci les
non mais
guignols.
d'être allé
oui, puis il y a une époque où il n'y a plus comme ça de grands personnages un petit peu dans l'extrême. Tout le monde est assez lisse, le paysage politique et économique. Donc voilà, c'était un petit...
Non, mais écoute, on va voir effectivement ce qui va ressortir de ce procès qui dure depuis
25 ans,
absolument. Pierre Jouvet, un coup de cœur pour un livre.
Oui, moi j'ai un coup de cœur pour le livre de la politiste Chloé Morin, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les inamovibles de la République » et qui est un portrait absolument remarquable de ce qui ne fonctionne plus, je crois, dans notre pays, c'est-à-dire une caste administrative qui a pris le pouvoir sur un politique et sur un pouvoir politique qui malheureusement ne joue plus suffisamment son rôle. Et elle décrit avec une grande justesse et beaucoup d'à-propos la réalité de ces grands commis d'État qui sont des gens d'une extrême compétence, mais qui en réalité, d'un politique à l'autre, ne s'appliquent qu'à une chose, c'est continuer de faire avancer leur petit pouvoir et surtout d'essayer de mettre sur la table des ministres qui se succèdent des réformes qu'ils veulent à tout prix faire passer et qui sont un contresens pour un certain nombre par rapport à la réalité que vivent nombreuses et nombreux de nos concitoyens. Et je trouve que ce livre met en avant une des grandes difficultés dans laquelle est plongée notre Ve République depuis maintenant trop longtemps. C'est la place bien trop grande qu'a pris la haute administration française sur le pouvoir politique et qui crée finalement cette dichotomie entre ce que disent les femmes et les hommes politiques quand ils se présentent à une élection présidentielle notamment et la réalité de la politique qui est engagée derrière. Et je crois qu'on devrait tous, en tout cas en tant qu'élus, en tant que citoyens, prendre à bras-le-corps ce sujet pour une réforme en profondeur de notre système politique dans sa globalité et de notre haute administration en particulier.
Bon, bah c'est dit, donc c'est Les Inamovibles de Chloé Morin. Franck Margain, coup de gueule.
Oui, un coup de gueule spécialement sur la campagne de l'Île-de-France qui commence et menée par Audrey Pulvar et ses amis qui voudraient instaurer la gratuité des transports. Alors je m'élève vraiment parce que là on est en pleine démagogie. Les transports en Île-de-France, c'est 10 milliards, il faut bien savoir. Hein. C'est 10 milliards, c'est les transports les plus denses qui existent au monde. Vous avez 4 milliards payés par les contribuables de... Pardon, par les voyageurs. 4 milliards par la vente. Donc ça veut dire que ce n'est pas 2 milliards et demi qu'il faut trouver, il faut trouver 4 milliards. Vous avez 4 milliards qui sont financés par les entreprises. C'est ce qu'on appelle le versement mobilité. Donc si vous ne demandez pas aux voyageurs de payer, vous allez demander soit à tous les Français, ce que je trouve tout à fait aberrant de demander à des gens qui habitent Toulouse, Marseille ou Bourges de payer le transport en Île-de-France, ou alors vous allez demander aux entreprises 4 milliards supplémentaires, et là c'est 50 euros de taxes sur les salaires. Parce que le versement mobilité, d'ailleurs les entreprises gueulent actuellement parce qu'il est déjà très élevé, il est très élevé à cause du pass unique qui a été laissé par la majorité précédente, et vous avez là maintenant une volonté supplémentaire soit de faire payer les Français, soit de faire payer encore les entreprises. Donc on ne peut pas faire de la politique avec de la démagogie systématique de toujours rendre tout gratuit. On a déjà des transports en commun.
Le gratuit, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
On finit toujours par payer.
Et qui sont les moins chers du monde ? Il faut toujours payer et c'est souvent les plus pauvres par le biais des emplois qu'ils ne pourront pas avoir parce que le coût de l'emploi sera trop cher en Île-de-France qui seront sur le carreau. Donc je m'insurge vraiment ce matin contre cette démagogie. Pourquoi pas faire les cantines gratuites, les HLM gratuits. Enfin, on peut comme ça rentrer en campagne électorale, faire rêver sur la gratuité. Je trouve que c'est prendre les franciliens pour des imbéciles.
Oui, mais là on va avoir concours d'annonces qui vont aller dans ce sens.
On risque d'avoir un concours d'annonces qui vont dans ce sens. Ils nous reprochent par exemple les lycées. Nous, quand nous sommes arrivés au pouvoir avec la présidente Pécresse, nous avons trouvé des étudiants, enfin des lycéens dans des algécos avec des toilettes à la turque. Et ils nous disent aujourd'hui qu'on est en retard. On a essayé de rattraper en retard. On a mis plus de 10 milliards dans les lycées. On n'a jamais fait mieux que pour les lycées. Et on se fait attaquer. Donc je trouve que faire de la politique comme ça, c'est ce qui éloigne en fait les Français de la politique. On ne peut pas faire de la démagogie sur la démagogie et renchérir en démagogie.
Moi, j'avais un coup de cœur, oui, pour Marlène Schiappa, puisqu'elle a décidé de lutter, de se battre, de déclarer la guerre aux sectes. Et c'est une très bonne chose de renforcer la... Mais vous êtes ironique, Alexis Poulain.
Bah ouais.
Mais c'est pourquoi la Miviludes...
La Miviludes n'a plus de moyens, elle a été totalement désossée.
Mais elle a décidé de renforcer justement la Miviludes. Ah. C'est pour ça que je lui...
Mais parfois, elle a des bon truc, hein. elle a des luttes justes, après c'est les effets.
Là, en tout cas, cette décision est importante, surtout en période de Covid où il y a de plus en plus d'escrocs qui se servent du Covid pour vendre des produits divers et variés.
Les champions du jus, l'appareil à jus, je ne sais plus comment il s'appelle. Lui,
absolument, lui qui dit d'abandonner tous les...
Il a supprimé toutes ses vidéos YouTube dans le week-end, apparemment.
Parce qu'il a quand même dit, j'ai entendu dans un reportage, il disait la chimiothérapie n'a jamais guéri personne, manger des légumes crus. Donc, j'avais aperçu, moi, Georges Fenech, qui va réintégrer d'ailleurs cette nouvelle structure.
Ah, bah,
qui
très
est,
bien, très bonne
qui,
nouvelle.
Voilà, Georges Fenech, et c'est une magistrate qui va être en charge de cela. Donc, c'est plutôt une très bonne chose, une très bonne décision de Marlène Schiappa. Et quand on sait, Georges Fenech était venu nous parler de son livre, que 40% des escroqueries et des dérives sectaires, surtout dérives sectaires, escroqueries, c'est une chose, mais dérives sectaires sont liés au domaine de la santé. Donc voilà, très bonne chose pour Marlène Schiappa.
Je voulais juste rajouter quelque chose. Je voulais féliciter mon ami Pierre Cerne, écologiste, ancien vice-président des transports à la région avant que nous prenions le pouvoir, qui a démonté l'argumentaire de Audrey Bullard en disant que c'est scandaleux de faire cette campagne-là, car la gratuité n'est pas...
Voilà. Je voulais le dire. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec vous sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors on va évidemment évoquer l'intervention du président de la République demain avec cette rumeur autour d'un couvre-feu. Je voulais, j'avais eu un deuxième des fois, parfois je n'ai pas de coup de gueule, mais là j'avais un coup de cœur et un coup de gueule. C'est le refus de la justice irlandaise hier d'extrader Ian Bailey. Alors Ian Bailey, c'est celui qui est accusé et qui a été condamné en France à 25 ans de prison pour le meurtre de Sophie Toscan du Plantier. Et la haute cour de Dublin donc a refusé de l'extrader. On est quand même en Europe. Il y a quand même. On ne parle pas d'un pays protégé, etc. Comment l'Irlande peut refuser d'extrader quelqu'un qui a été condamné à 25 ans de prison ? Je ne sais pas, je voulais vous...
C'est étonnant. Hein. Je pensais qu'il y aurait des accords quand même entre partenaires européens, membres de l'Union,
Schengen. Il y a aussi une crispation sur l'affaire Toscan du Plantier. Vous savez qu'en France, on a été très ennuyé entre le soutien à la famille et son accusation. Et je pense, pour avoir connu cette affaire, moi, il y a très longtemps, il est Toscan du Plantier, il y avait, vu de l'Irlande, des Français qui n'étaient pas hyper... ils étaient plutôt dans le soutien du spectacle, soutien de, des choses qui peuvent arriver. Les Irlandais étaient beaucoup plus stricts. Donc je pense que peut-être 25 ans après, le juge... Parce que c'est souvent un magistrat qui va décider. Hein. Ce n'est pas que la loi. La loi doit lui permettre. Et là, vous avez raison, Valérie. C'est un peu dommage que la loi en Europe ne permette pas d'extrader entre nous, mais c'est tellement une décision humaine.
La justice irlandaise a invoqué l'absence de réciprocité en la matière. Mais enfin, il y a quand même un truc qui ne fonctionne pas. Un type qui est condamné à 25 ans de prison et qu'on ne peut pas extrader. Alors, demain, le président de la République doit intervenir. Alors, hier, Sophie de Menton nous disait, mais non, il n'annonce pas de mauvaises nouvelles, le président de la République.
Elle n'a pas tort. Il n'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles, il évite.
Oui, alors demain quoi?
Bah, si c'est lui qui parle. Non, mais.
On nous prévoit une intervention longue d'au moins 45 minutes.
Longue et
mais
douloureuse.
Mais comme il a un Premier ministre qui n'imprime pas, il est obligé de parler.
Ah oui, c'est sûr. Vous avez entendu, vous n'avez pas entendu tout à l'heure dans le zapping, c'est vrai que ça valait. Tiens, je vais vous faire écouter, alors qu'on lui parlait. C'est une petite parenthèse au Premier ministre hier, on lui parlait de Stop Covid. Écoutez ce qu'il disait.
J'ai pris un portable sécurisé. Donc, je n'ai pas téléchargé Télécovid. Alors maintenant, je vous annonce, en réalité, Télécovid, indépendamment de ma propre personne, n'a pas eu les effets escomptés.
Alors, Télécovid, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas trouvé l'application.
36-15 Jean Castex. Alors, vous pouvez avoir les chiffres du Covid par fax au 28-28-32. Le numéro vert reste ouvert. Et bien sûr, les disquettes et cassettes de téléchargement sur Minitel, TO7 et MO5 sont disponibles.
Pierre Jouvet,
Mais malgré ça... Au-delà de la boutade qui nous fait tous sourire, mais moi, ça me fait sourire qu'à demi. J'avais déjà dit dans votre émission, quand il avait été nommé Premier ministre, où, rappelez-vous, c'était le grand sujet, c'était « Ah, on va nommer un élu local qui va maîtriser tout ça, etc. » Le problème, c'est qu'on s'aperçoit dans le moment dans lequel qu'on est en train de vivre, crise sanitaire, crise sociale qui est en train d'exploser, crise économique, et en plus de ça, maintenant, il y a même des tensions extrêmement puissantes dans la société, qu'on a malheureusement un Premier ministre qui est tellement faible, qui n'imprime absolument pas dans l'opinion, qui finalement n'est là que pour être un mauvais porte-parole du président de la République, qu'on a un président de la République qui est obligé de se remettre au front sur le sujet, et des ministres qui doivent essayer de rattraper des coups en permanence. Mais c'est un naufrage, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, à chaque expression du Premier ministre, on a non seulement des injonctions contradictoires, mais en plus de ça, on a même maintenant, et c'est encore plus grave, une crédibilité politique qui est en train d'être interrogée. il y a un sujet. Quand on voit qu'Emmanuel Macron l'a mis là simplement pour ne pas avoir d'ombre, ah ben là, il a réussi son coup, parce que pour pas avoir d'ombre, il risque pas d'avoir de l'ombre. Hein.
Ouais.
Mais
ouais,
c'est catastrophique pour la gestion du pays.
Alors,
moi, je crois qu'il y a un problème que le président va devoir trancher, ou du moins expliquer aux Français comment ils veulent trancher. Moi, je pense que si on arrête l'économie, qu'on l'a vu, on tue les pauvres, d'abord, et les jeunes. Et si on confine tout le monde, on fait ce choix. Maintenant, si on confine pas, on tue les vieux, les fragiles, et de manière indifférente. Donc, on a deux grands choix. Or, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est qu'on est à peu près un des plus mauvais élèves de la classe, puisqu'on est sur le classement 50e position en matière de gestion du Covid.
Incroyable.
Contre l'Allemagne, qui est quand même notre partenaire. Moi, je n'aime pas spécialement toujours comparer l'un, mais l'Allemagne est en 3e position sur le plan mondial. On hurle contre Trump, qui a 200 000 morts sur près de 350 millions de personnes, et nous, on en a plus de 30 000 sur 65 millions, on a exactement les mêmes taux. Donc, la réalité, c'est qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'un pays qui est en train de se saborder, qui saborde les libertés de la démocratie, quand même, je vous rappelle que l'état d'urgence, c'est les libertés qu'on met entre parenthèses. Ouais. Et la deuxième chose, c'est l'économie qu'on saborde pour, j'allais dire, préserver, et j'ai des parents, j'ai des autour de moi, des gens, mais des gens beaucoup plus âgés, et sacrifier la jeunesse, je pense qu'on est tombé sur la tête. Et qu'à un moment donné, quand on entend le débat des médecins, qui affolent les Français, vous avez quand même des médecins qui s'entretuent sur les plateaux télé, quand je dis qui s'entretuent, vous avez, si vous êtes pro-Raoul, vous êtes anti-Macron, si vous êtes anti-Raoul, vous êtes pro-Macron, vous avez des professeurs beaucoup plus sérieux, comme le professeur Fouché, qui vous explique qu'en fait, on a mal géré la réanimation, que dans une réanimation, c'est comme une bouteille, vous avez des gros flux entrants, et si vous n'avez pas de flux sortant, et ben ça bouche, et on a pas préparé l'hôpital. Là, sur 4 mois d'été, on n'a toujours pas préparé l'hôpital. Donc, il va falloir quand même que le président Macron s'explique. Enfin, moi, je ne sais pas, je ne suis pas médecin et je suis un homme politique, mais en tant qu'homme politique, il y a deux choses que je note. On a menti aux Français de A à Z, on leur a privé de liberté, on a tué leur économie pour être 50e dans le league table de la gestion du Covid. Et en cela, il faut qu'ils s'expliquent.
Ouais. C'est incroyable, parce que je suis tout à fait d'accord. Rendez-vous compte, Bruno Le Maire qui expliquait hier que nous ne rembourserons la dette Covid qu'en 2042, si tout va bien. C'est-à-dire qu'on est en train d'endetter la France pour des décennies, sans savoir si jamais il se passera quelque chose. Et en mettant pourtant des secteurs entiers à genoux, à terre.
Parce si on endettait pour une réussite, je suis d'accord.
Mais, voilà, mais là, on est en train d'endetter pour rien.
Pour rater, quoi.
Pour dire, finalement, on va financer une pauvreté endémique avec, en plus dans le plan de relance, seulement 0,8% consacré à l'extrême pauvreté. Parce que le problème qu'on va avoir avec ce Covid, c'est la crise sociale qui va suivre. Avec l'entrée dans l'extrême pauvreté d'une grande partie des précaires et des gens qui ont déjà des soucis de finir le mois. Donc ça, j'ai l'impression que le gouvernement navigue encore une fois à vue, n'a pas de plan, et c'est extrêmement inquiétant. C'est extrêmement.
Alors, moi, je pense qu'il n'a pas pris de décision.
Alors, on peut peut-être s'étonner, c'est qu'on a eu en effet une feuille blanche au mois de mars. On se dit que X mois plus tard, on peut tirer les enseignements de ces premiers mois de gestion de cette crise. Et on a en effet à nouveau une cacophonie dans les prises de parole, à savoir que on a un ministre de la Santé qui a parlé le premier pour remettre les premiers tours de vis, et il l'avait fait maladroitement sans avoir consulté les élus locaux. Ensuite, on a lundi un Premier ministre qui dit on va peut-être faire un confinement localisé pour qu'on nous dise le lendemain. Là aussi, la rumeur qui commence à parler. Non, pas du tout, pas de confinement. Ouais. Mais on va partir sur un probable couvre-feu. Donc, on sent en effet qu'il y a une parole discordante. On sent en effet qu'il y a eu une cacophonie et il semblerait que on appelle le chef à reprendre la parole, alors que j'imagine qu'il n'avait pas prévu de parler aussi vite et aussi rapidement, et on peut espérer que ce ne sera pas dans la précipitation, mais que véritablement demain le cap sera donné, parce que on a lancé des mesures il y a une semaine, on n'a même pas le retour sur on sait jusqu'à Marseille la fermeture des bars n'a pas permis de stopper l'avancée du virus. Ça a permis juste de stabiliser, mais en tout cas, ça ne baisse pas. Donc, on n'a pas le retour déjà sur les premières mesures mises en place, qu'on sait déjà qu'il semblerait que ça ne fonctionne pas, puisqu'on va devoir proposer autre chose.
Alors, Pierre Jouvet.
Et la véritable difficulté, c'est que non seulement on n'a pas pris en compte ce qui s'était passé au printemps dernier, mais que surtout, pourquoi on en est dans cette situation-là? Et pourquoi est-ce qu'on va essayer de mettre des rustines sur une jambe de bois? Parce qu'on n'a pas préparé l'hôpital public et qu'on a un hôpital public qui aujourd'hui n'est pas organisé face à cette deuxième vague qui est en train d'arriver, face à cette vague qui va sans doute être peut-être plus longue que celle qu'on a connue la première fois et qu'on a un taux notamment de place en réanimation qui est pas du tout suffisant par rapport à la réalité dont on va avoir besoin et qu'en fait on a eu une impréparation complète sur les trois derniers mois. C'est ça qui est absolument considérable. Pensez que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans laquelle je suis élu, il y a dans les hôpitaux publics 800 places de réanimation. Si on atteint un pic épidémique comme au printemps dernier, il y aurait besoin de 8000 lits de réanimation en instantané. C'est aujourd'hui un système qui prend l'eau de toutes parts. Donc on peut fermer des bars, on peut mettre des mesures de couvre-feu, on peut dire aux gens de ne plus aller faire des soirées en famille, de ne plus sortir, essayer de culpabiliser les Français. Mais la réalité, c'est que le système n'est pas prêt à absorber un deuxième choc à l'hôpital public. Parce que depuis des décennies, on n'a pas mis les moyens sur l'hôpital public.
Oui, mais
on a un hôpital qui est à l'os.
On n'est pas les seuls non plus. Il faut regarder un petit peu à l'étranger. Au Québec, il y a interdiction de se rassembler en famille. Pourquoi c'est différent?
Non, mais c'est délirant. Au Québec, on rentre dans un truc où on n'a pas envie d'aller. Mais il y a le Québec qui réagit comme ça.
Il y a certains États américains.
Le problème, Valette, ce qu'on peut dire, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord si on prend des mesures qui sont efficaces. La problématique que je décris ici, c'est que nous sommes dans le plus bas des classements. Ce qui m'ennuie, en fait, c'est si effectivement on avait décidé que empêcher les jeunes de se réunir était efficace. Moi, je n'y vois aucun inconvénient quand on a un problème et qu'on essaie de... La réalité de ce que je vois, c'est qu'en fait, on a une ARS qui a imposé des protocoles, notamment sur la réanimation. On laisse les gens dans les lignes de réanimation très longtemps, même lorsqu'ils vont mieux. On n'a pas fait des chambres, si vous voulez, de sortie de réanimation pour
soin de suite et de réadaptation.
Pour avoir des gens, si vous voulez, qui peuvent à nouveau rentrer en humain. Donc, ce que dit mon ami Monsieur Jouvet, c'est tout à fait vrai. L'hôpital n'a pas été... C'est pas que en quantité de lits de réanimation, c'est en termes de protocole d'organisation. Donc, on arrive aujourd'hui où l'hôpital ne sait pas faire. On a tendance à stigmatiser les jeunes, mais les jeunes... Enfin, moi, je me mets à la place des jeunes. Eux, quand ils sont malades du Covid, ils sont malades 3 ou 4 jours, ils ont des fièvres, et puis ils retournent bosser ou vivre. Ce qui n'est pas du tout le cas des personnes fragiles. Donc, on est en train de faire porter aux gens qui sont les moins, j'allais dire, impactés par le Covid, toute la charge du Covid. Enfin, on est quand même tombé sur la tête. Qu'on oblige, par exemple, les personnes âgées à rester effectivement chez elles, ou qu'on mette en place un système d'alimentation, si vous voulez, à domicile. Enfin, qu'on fasse de la vraie politique.
Vous vous souvenez du tollé qu'il y a eu quand on a proposé ça.
Mais là, c'est le contraire. On empêche, en fait, les jeunes de vivre, on empêche l'économie de tourner pour ne pas stigmatiser les personnes âgées. Moi, je suis assez choqué, quand même, de cette nation qui... vieillit, mais qui vieillit dans son mental.
Mais c'est un choix qu'on demande de faire qui est impossible, parce qu'en fait, on demande aux Français de choisir entre la santé, la solidarité, avec les plus fragiles, et les libertés. Non, pire que ça, les libertés.
Et les libertés.
Parce que quand on regarde les Chinois qui ont endigué cette économie, ils l'ont fait, mais à
cette
coup de coercition.
Cette épidémie, c'est un joli
lapsus. Ils ont aussi bien réglé l'économie.
Si c'est un virus économique. mais ils ont réussi parce que quoi? Parce que vous ne pouviez pas sortir de chez vous, vous étiez tracé, là pour le coup, vraiment avec votre téléphone. C'est des mesures qu'on ne veut pas avoir chez nous.
Et eux, ils ont privé de liberté.
Ils ont réussi.
Moi, c'est ce que je dis. Moi, si on avait
a choisi. Voilà. Mais notre société ne choisit pas de se priver des libertés.
On a un président qui n'a pas choisi.
Mais heureusement. Et heureusement, j'aimerais pas qu'Emmanuel Macron choisisse de nous priver
de liberté. Si ça avait été pour réussir et sortir le Covid, ça va. Là, on a été privé de liberté. On a pu faire des amendements, des décrets, tourner la liberté d'expression. Et de l'autre côté, on a le plus bateau. Les Chinois, vous me direz, oui, c'est terrible, mais au moins, eux, ils ont privé les gens de liberté, mais ils n'ont plus de Covid. Mmh. Donc, à un moment donné, moi, je suis un peu peut-être libéral, mais c'est quand même le levier d'efficacité. Si vous prenez des mesures, il faut qu'elles soient bonnes.
Là, on a compilation de mesures. On a un auditeur, Xavier, qui nous dit que Castex est incapable, comme le dit un de vos chroniqueurs, est peut-être un peu fort, car Édouard Philippe n'a pas mieux géré la crise du Covid-19.
Non, il est parti au bon moment. Il est juste parti au bon moment.
Il a eu toute la crise du Covid aussi, et évite d'avoir à payer le coût du déconfinement.
Et puis parce qu'il y a une personnalité qui est charismatique, Édouard Philippe, et puis peut-être qu'il y en a une qui est peut-être plus maladroite dans son aisance oratoire. Voilà.
Ouais. Jean Castex a parlé donc hier chez nos confrères de France Info, Emmanuel Macron demain, Véran jeudi. en termes de com', c'est cacophonique. On sent... Et Jean-Baptiste Lemoyne, pardon de vous interrompre, ministre du tourisme qui a dit réservez vos vacances de Pâques.
C'est un geste citoyen, a-t-il dit.
Oui, mais si on nous annonce un couvre-feu demain, il y a quand même là aussi, en termes de communication,
Jean-Michel Blanquer aussi.
On a un manque de cohérence, on a un manque de ligne directoire, et puis on a un manque de constance dans les prises de parole. Donc on sent bien que c'est le contexte qui provoque la parole et non pas une parole raisonnée et structurée.
Et en plus de ça, il y a un autre élément, c'est que pendant longtemps et bien souvent, quand il y a des décisions à prendre dans des métropoles et dans des territoires, les élus locaux sont pas toujours associés comme ils devraient l'être. Et à l'inverse, moi je vous donne mon exemple en tant que maire d'une petite commune, on est livré à nous-mêmes. Ouais. Je vous donne un exemple. Moi, dans la Drôme, on n'est pas en seuil épidémique maximal. Ouais. On n'est pas en zone écarlate. Ouais. Et ben moi, je ne sais pas. Ce soir, par exemple, dans ma ville à Saint-Vallier, j'ai un match de basket de Coupe de France où la ville de Saint-Vallier va jouer contre une équipe de Pro A. Eh bien, je ne sais pas. Je n'ai rien qui me dit dans les mesures sanitaires ce que je dois faire. Le préfet de la Drôme me dit, vous prenez la responsabilité. Et moi, je prends la responsabilité au regard de quels chiffres, au regard de quoi, au regard de quelle situation. À partir du moment où il y a un protocole sanitaire qui est validé par des fédérations françaises, à partir du moment où il y a un protocole sanitaire qui est envoyé par l'ARS, ben on me dit, bah, vous pouvez faire un match de basket avec 1000 personnes ce soir. Mais par contre, on va aller dire à des jeunes, comme vous le disiez à l'instant, de pas se réunir, de pas faire une soirée ou de pas aller voir leur famille. Mais enfin, tout ça n'a pas de sens. Soit on pose un cadre qu'on essaye de faire appliquer selon des courbes épidémiques. Il y a l'Institut Pasteur qui fait des volumétries épidémiques et on peut arriver à avoir un suivi. Enfin, soit sinon on dit à tout le monde démerdez-vous et puis que le meilleur gagne.
Mais le cadre peut pas être le même pour tout le monde. Le cadre peut pas être le même à Saint-Vallier qu'à Paris.
C'est pour ça qu'on peut l'adapter par région. Oui. On peut l'adapter par département. On peut l'adapter par région. Il y a des modélisations qui existent et ces modélisations aujourd'hui elles sont pas faites. Et c'est bien ça tout le drame.
Oui. C'est un autre enseignement de la pandémie. C'est en fait de ne pas avoir voulu s'appuyer sur les régions et sur les départements. En fait, on s'est aperçu pendant le confinement qu'il y avait des régions qui avaient été confinées beaucoup trop longtemps par rapport à la réalité et d'autres qui auraient peut-être dû l'être différemment. Donc moi, où j'attends le président de la République ce soir, c'est aussi qu'est-ce qu'il va faire en termes de régionalisation et en termes de départementalisation. Enfin, c'est pas la peine d'avoir des élus. On a le plus grand nombre d'élus en France.
Enfin, on entend ce que vient de nous dire Pierre Jouvet, c'est démerdez-vous, il n'y a pas d'autre mot. Même le préfet ne donne pas d'indication.
Oui. Et donc, vous allez dans mon sens, il est temps que les préfets de région et que les préfets de département s'inspirent avec les élus de normes locales. Moi, ce que je reproche beaucoup dans cette pandémie, c'est qu'en fait, moi, si j'étais, par exemple, interdit en tant que Parisien de voyager, je ne sais pas, à Dijon, ça ne me choquerait pas. Si, dès l'instant où on pense que je suis... Que les Dijonnais ne puissent pas avoir leur cousin toulousain, moi, ça me choque. Enfin, oui. Ce qui est extraordinaire,
Mais c'est pour ça que c'est aussi extrêmement compliqué à gérer. Est-ce que vous pensez qu'il va annoncer un couvre-feu demain?
Non, il faut qu'il annonce une manière différente. Et moi, je pense que c'est ce qui va se passer, une manière différente de gérer la pandémie, ça, de refaire un peu confiance aux gens. Enfin, vous pouvez pas quand même demander une jeunesse de se sacrifier.
Mais sauf que ce qui se passe aujourd'hui avec les mesures qui ont été annoncées la semaine dernière, c'est-à-dire la fermeture des salles de sport, j'ai vu hier un communiqué d'une salle de sport et quelqu'un me racontait les mêmes choses, c'est-à-dire qu'avec un certificat médical, vous avez le droit d'aller faire du sport. On a eu un restaurateur la semaine dernière qui nous a dit, moi, sur le cahier où on doit inscrire son nom, j'ai des gens qui m'écrivent Batman, Superman. Donc évidemment, les gens n'obéissent plus, non plus. Il y a une défiance face à ces règles, Natacha Amy. Il y a une non-acceptation des règles.
C'est intéressant aussi ce que vous dites, parce qu'on est là, donc, en train de tout mettre sur l'État, mais il faut aussi que chacun mesure sa propre responsabilité. Et on a tous une responsabilité. Et en effet, quand on nous dit, oui, c'est bien qu'on puisse tracer les personnes qui vont dans un restaurant... C'est vrai que se dire qu'on peut jouer le jeu, c'est pas mal. Après, c'est comme tout, vous allez dans un mariage, vous voyez des choses, c'est hallucinant. Tout le monde s'embrasse, tout le monde danse comme si de rien n'était. D'un extrême dont vous parliez, où on est privé de liberté, mais aussi à se dire que malheureusement, un contexte sanitaire nous oblige à avoir quelques petites mesures qui nous permettraient peut-être, parce que chacun va, mais de sa propre responsabilité. Et là, on revient à... Est-ce qu'on se déresponsabilise et on estime que c'est toujours l'État, le pouvoir qui doit nous dire ce que l'on doit faire ou ne pas faire, ou alors on redevient aussi des citoyens acteurs de notre citoyenneté?
Moi, je pense que l'État, dans une période de pandémie, a quand même un rôle. Enfin, je veux dire, si on a bien, comment dirais-je, une démocratie avec un État qui a des pouvoirs égaliens, c'est bien celui de gérer un pays en état de crise. Or, qu'est-ce que je vois? On nous avait expliqué que ni de gauche ni de droite, c'était le monde merveilleux et que c'était le monde moderne et que justement, ce seraient des bons gestionnaires. Or, on s'aperçoit que ce sont les pires gestionnaires. Enfin, moi, j'en veux encore pour preuve le résultat que nous avons sur le League Table. Encore une fois, hein, on ne peut pas dire que ces gens-là gèrent correctement alors que nous sommes 50e pays en matière de taux de mortalité. Ça n'est pas possible.
Un sondage récent a quand même montré que quand on demandait aux Français, pensez-vous que les autres partis, que ce soit LR, désolé, que ce soit RN ou que ce soit les Insoumis auraient fait mieux, les Français disent qu'ils ne le pensent pas. Donc la défiance vis-à-vis de la classe politique, elle est globale.
Elle est assez globale. Et ça a été mon propos d'introduction face aux campagnes politiques qu'on rasait gratis.
Couvre-feu ou pas pour vous, Natacha Amy?
Je pense que si le président prend la parole, c'est qu'il va annoncer des choses fortes, des choses qui ne sont pas des mesures, des petites mesurettes ou des aspects techniques de réajustement. Et que s'il prend la parole, on peut s'attendre à des choses en effet d'importance. Ouais. Sous quelle forme? Je ne suis pas dans le secret des dieux.
Alexis Poulain.
Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que là, il y a vraiment géré l'urgence en termes de dommages qui sont faits sur le crédit du politique. On voit bien, tous vont parler chacun à leur tour dans la semaine. Donc, on a l'impression des pompiers qui lancent des petits seaux d'eau sur un incendie qu'ils n'arrivent pas à éteindre. Parce que derrière, c'est le crédit de ce gouvernement qui est en jeu. C'est de dire, mais rendez-vous compte, vous n'avez rien fait cet été, la rentrée n'a pas été planifiée.
Donc, couvre-feu ou pas pour vous demain?
J'espère pas.
Vous espérez pas.
Voilà, et parce que ce serait vraiment.
Rapidement, Pierre, après on va partir en pub et on reviendra.
Je ne pense pas qu'il puisse décréter un couvre-feu à l'échelle du pays.
Non, pas à l'échelle du pays, sur des régions.
Peut-être sur des régions, mais une fois encore, ça reviendra à dire, et moi je souscris pleinement à ce qu'a dit Franck juste avant. Le sujet, c'est qu'on est un pays décentralisé. Mettons les élus locaux autour de la table, mettons les préfets de région, les DG d'ARS, les directeurs territoriaux des ARS, les directeurs d'hôpitaux, et prenons les décisions à l'échelle de vie des gens. C'est ça qu'il faut faire et qu'on ne fait pas, on ne le fait pas. Il
n'y
a aucune décision dans les départements qui est faite pour prendre des décisions à l'échelle d'un département. Voilà. Ouais. Moi, je suis élu dans un département de la Drôme, 550 000 habitants. Si on se met autour d'une table, on prend les grands élus du département, le préfet, les directeurs des hôpitaux du département de la Drôme et on prend des décisions collectivement et on en réfère ensuite à l'État, je pense que ça fonctionnerait mieux que des décisions qui seront imposées de Paris et qui n'auront pas le sens réel avec ce qui est confronté sur le terrain dans notre département ou ailleurs. C'est ça le sujet.
On marque une pause et on se retrouve avec vous sur Sud Radio pour parler donc des suites de l'attaque du commissariat de Champigny sur Marne. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
On est ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio. Vous retrouverez ensuite André Bercoff. Donc, deux jours avant Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur a réuni ce soir tous les syndicats de police qui attendent des mesures susceptibles d'apaiser ce ras-le-bol des policiers. C'est vrai que les violences et la défiance vis-à-vis de la police est de plus en plus importante. Alors, il y a toujours eu des batailles, des bagarres comme ça, mais c'est vrai que l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne, et on en a parlé hier, a accentué le malaise, attaque au mortier, attaque à coups de boules de pétanque. Interdire les mortiers ne suffira pas, et c'est là-dessus que je voulais revenir, sur ces scènes absolument terrifiantes, quoi. Quelle solution? Est-ce que, finalement, il faut pas... parce que c'était beaucoup de mineurs, apparemment. Est-ce qu'il ne faut pas supprimer les allocations familiales? Est-ce qu'il ne faut pas en passer par le porte-monnaie? Que faire, Natacha Amy?
C'est un vaste chantier. Alors, que faire? Tout faire. Ouais. C'est l'affaire de tous. Je pense qu'en effet, si on retrouve des mineurs en train de traîner, c'est qu'il y a une défaillance du système éducatif, du système parental. Pourquoi un enfant n'est pas là? Donc, je pense que c'est au global qu'on pourra régler ça. C'est un problème, c'est l'affaire de tous. c'est les élus locaux, c'est les associations, c'est les parents, c'est l'éducation, c'est la police municipale, c'est peut-être... voilà, mais il y a tout à revoir, en effet. Là, c'est un vaste chantier, mais ouais. On est arrivé... Enfin, on voit vraiment que c'est l'érosion de la démocratie et de nos institutions.
Voilà. Pierre Jouvet, vous avez, vous, ce type d'affrontement dans la Drôme ?
Non, heureusement. Enfin, chez moi, en tout cas, heureusement, il n'y en a pas, mais parfois... On sent de toute manière des situations de tension hein, qui peuvent exister et qui s'expliquent de différentes manières. Il y a une défiance malheureusement générale qui a pu s'installer entre une partie de la population qui est en rupture de la société avec les forces de l'ordre et qui ne veut respecter aucune autorité et aucun ordre. Ouais. Et en parallèle de ça, on a malheureusement des forces de l'ordre qui sont trop souvent et malgré le travail qu'elles essayent de faire sur le terrain, trop peu mobilisables sur le terrain avec un nombre conséquent de personnes. Moi, je vous donne l'exemple encore une fois de chez moi. Hein, je suis désolé, je vous fais des exemples très local.
C'est concret.
50 000 habitants. La brigade de gendarmerie qui gère le territoire qui est le mien, 50 000 habitants, 14 gendarmes. Voilà, 14 gendarmes, 50 000 habitants. Ben écoutez, moi, quand vous me demanderez comment on fait pour gérer avec 14 gendarmes, je ne sais pas comment ils font. Ouais. Avec du matériel qui est du matériel vieillissant, avec des récupérations horaires comme on a partout, et c'est normal, hein, parce que quand 3 gendarmes ou 4 gendarmes font une ronde de nuit, ben après, derrière, ça se répercute sur le reste de l'équipe. Donc, ils ont des moyens qui sont limités. Et puis après, aussi, malheureusement, avec une chaîne pénale qui, dans un certain nombre de cas, ne fonctionne plus suffisamment.
C'est ça,
et donc, on a des rappels à l'ordre qui sont faits de manière régulière. Moi, j'ai même mis en place dans ma mairie, en tant que maire, ce qui s'appelle un rappel à l'ordre où les jeunes mineurs sont convoqués dans le bureau du maire, viennent avec leurs parents, je leur rappelle les règles de la République, etc. Bon, ben, ça marche le temps que ça marche dans le bureau, mais après, quand il n'y a plus de suivi, quand il n'y a plus d'éducateurs dans les quartiers, quand il n'y a plus de lien avec la République, et ben, c'est un tout qui se délite. Mmh. Et tant qu'on n'aura pas recréé ces liens et redonné des moyens et aux éducateurs spécialisés, et aux éducateurs de rue, et aussi aux forces de l'ordre, on sera malheureusement dans ces situations d'affrontement, mais que je condamne absolument. Enfin, ces images sont épouvantables à voir. Épouvantables.
Ouais. Mais il y a une défiance généralisée, hein, de toute façon, vis-à-vis de l'État. Oui, Alexis Poulain.
C'était pire que ça, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont mis l'État en faillite pendant des années. Là, on parlait du service des urgences qui est à l'os, mais on n'a plus qu'un squelette d'État. Il n'y a plus de muscles, il n'y a plus rien. Même dans le régalien, c'est-à-dire que la justice et la police manquent de moyens, cruellement de moyens. Même là où ça devrait être le dernier rempart des services de l'État, il n'y en a plus. Mmh. Ou alors, il y en a, mais qui sont vraiment, vraiment très, très loin de ce qui devrait être. Et vous avez des situations dans les territoires où on sait que le trafic tient le quartier. C'était le cas à Champigny, mais les commissariats, ils sont mais évidemment qu'ils ne sont pas assez nombreux. Vous avez Fort Alamo, vous avez un commissariat au milieu d'un territoire, ils sont seuls. Et vous avez trois policiers qui vont faire des maraudes la nuit pour 76 000 habitants, sachant que derrière, c'est des dealers qui font la loi dans le quartier.
Donc voilà, le problème, il est là, il n'est pas interdire les pétards.
Il n'est pas neuf, le problème, il n'est pas neuf. C'est-à-dire qu'on a supprimé la police de proximité, on a supprimé les éducateurs, on a fait confiance à des associations.
Oui, maintenant, on a déversé aussi beaucoup d'argent à des associations.
C'est ce que j'allais dire. Et on se rend compte que ces associations n'ont rien à faire avec la République.
C'est pire que d'avoir.
Et aujourd'hui, on se rend compte.
On a quand même déversé beaucoup d'argent sur la banlieue. Beaucoup.
Bien sûr.
Mais moi, pas bien.
Pas forcément là où il faut.
Ouais. Franck Margain.
Ouais, moi, je pense qu'il y a un problème d'abord en amont. Nous n'avons plus de lieu de rencontre des riches, des pauvres, des plus éduqués, des moins éduqués. Je ne vais pas vous refaire un travail sur les 50 dernières années. Disparition du service militaire. Moi, je me suivais service militaire, j'ai vu des cas. Les mecs, ils passaient 2 mois en prison jusqu'à ce qu'on les mette au pas, parce qu'ils étaient contre la société, contre ci, contre ça. Enfin, la réalité, c'est qu'ils sortaient du service militaire, ils avaient une idée du vivre ensemble, d'avoir rencontré des gens qui n'étaient pas comme eux, et faire en sorte que finalement, bah, ce n'était pas si mal d'avoir un pays qui s'était occupé d'eux. Plus de lieu d'encontre. Deuxième, déchristianisation complète du pays. Bon, bien évidemment, ce n'est pas mon boulot, c'est le boulot des évêques, mais enfin, la réalité, c'est que quand vous alliez à la messe, vous aviez les riches et les pauvres, le curé, il engueulait tout le monde, et finalement, on se retrouvait, les mômes faisaient des bêtises, mais on avait un lieu de vivre ensemble. Or, en amont, moi, je pense que cette société n'a plus de lieu de brassage. Première chose. Et la dernière chose, l'école républicaine, qui soi-disant est de blocage, tout le monde met ses enfants dans les écoles privées où on leur fait faire du russe en première langue pour qu'on soit sûr d'aller dans le lycée qui va bien. Donc la réalité, c'est que même dans l'école républicaine, vous n'avez plus massé. Les trois lieux de brassage qui ont constitué, si vous voulez, l'après-guerre ont peu ou prou disparu. Deuxième chose, c'est en aval.
complaisance des élus. Mais alors, la complaisance des élus vis-à-vis, si vous voulez, des minorités est scandaleuse. Parce que vous avez exactement ce que vous dites, Valérie, des associations qui sont largement subventionnées pour avoir la paix. Moi, je l'ai vu, je ne citerai pas de nom, mais je l'ai vu de mes yeux, vu des élus aller voir les associations. Tu leur diras de voter pour moi et je leur mettrai ça dans leur cantine, ou je leur mettrai ça dans leur, ou je leur ouvrirai ça comme établissement. Enfin, on a quand même un achat. On a un achat des minorités.
De la paix, sociale.
De la paix sociale par la part des élus. Et donc le recul complet des valeurs de la
République. Alors on fait
quoi ? Eh bien on fait qu'il faut, ce que disait Pascal, excusez-moi, mais il faut terroriser non pas les terroristes, mais il faut terroriser les malfaiteurs. Ouais. À un moment donné, il faut remettre la police et il faut savoir que quand vous détruisez une cabine téléphonique ou un abri bus, eh bien vous
allez en prison. La justice ne suit pas, vous n'y allez pas en prison. On l'a évoqué hier.
C'est l'amour de la police. À un moment donné, il faut reprendre les rênes. Nous, je vois la région Île-de-France. On subventionne, par exemple, les équipements de la police. Regardez, Madame Hidalgo ne veut pas de police municipale. Elle a été obligée d'avoir une police municipale parce que les Parisiens lui ont demandé. À un moment donné, il ne faut pas désespérer. C'est notre travail d'élu. Moi, je pense que police municipale dans toutes les villes, police municipale armée et formée dans toutes les villes, juges qui prennent enfin la maison du roi, construction de prison. Enfin, Macron nous avait promis la construction de prison. Elles sont c'est un abandon des élus.
Mais enfin, il y a le problème de la justice avec les peines non exécutées, avec des peines exécutées trois ans après. Il y a plus d'exemplarité de la justice. Il y a une impunité totale.
Il y a plus suffisamment d'exemplarité. Vous avez entièrement raison. Mais je vous dis que si on remet en place la police et que si on remet effectivement de la place dans les prisons, ou dans des organisations.
Bagnolet qui demande un commissariat depuis des années, Champigny qui demandait aussi des renforts depuis des années, l'État est démissionnaire, c'est ce que je vous disais, on organise cette faillite. Maintenant, vous demandez aux policiers...
On est d'accord. On peut pas dire qu'il n'y a rien à faire. C'est un problème.
Laissez-moi finir, parce que le problème, c'est faire reposer le problème sur les épaules des policiers, vous leur demandez d'aller au casse-pipe, là.
Non, mais sur une histoire de mortier, ça ne veut rien dire.
Mais si, c'est quoi ? C'est dire, vous allez mettre des policiers municipaux armés qui vont donc être, s'ils sont pas suffisamment nombreux, ils vont être des cibles de plus.
On ira sur la guerre civile parce que vous savez que dans les zones qui sont difficiles, les gens pensent vraiment que la police est inefficace. D'abord, il n'y en a pas ou il y en a très peu. Non, enfin, il faut aller voir. Très ami avec Laurent Jeanne de Champigny-sur-Marne qui vient de gagner les élections après 40 ans de communisme. Comme il m'a dit, il y a quand même des endroits dans la ville où la police n'allait jamais. Alors, ils ont bombardé le commissariat pour lui montrer au nouveau maire, c'est un ami très personnel, que ça n'allait pas se passer comme ils voulaient, que c'est eux qui allaient faire la loi. Eh ben non. Il faut doubler ou tripler la police, il faut mettre des rondes, et il faut enfermer les gens, et il ne faut pas Darmanin nous amène des trucs à la mortier, mais il faut dire, voilà, combien de places de prison pour les jeunes, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes, c'est ça qu'on attend.
Oui. Pierre Jouvet.
Moi, je crois que simplement plus que des places de prison, parce qu'en fait, il y a plusieurs éléments. Il y a la base entre qui sont ces délinquants et qui sont certains des primo-délinquants, mais qui malheureusement sont très jeunes et ont déjà des multiples faits de délinquance. Ce sont des jeunes qui parfois ont entre 15, 17, 18 ans et qui ne sont pas majeurs. Donc la question, elle n'est même pas simplement que sur la prison. Moi, je crois qu'on doit remettre en place la construction dans ce pays d'un processus très important de centres éducatifs fermés. Qui doivent être créés, qui doivent être construits, où ces jeunes-là qui font les cons dans les quartiers, on les attrape, on les met pas simplement en prison avec toute la population carcérale
dans des centres spécialisés pour mineurs.
C'est qu'on leur fait faire des travaux d'intérêt généraux.
Vous voulez pas les élus de gauche mettre les gens dans des centres de détention.
Et ensuite, derrière, quand on parle de majeurs, moi, j'ai pas d'état d'âme à ce que les gens aillent en prison, mais il faut voir quel est l'effet que produit la prison. Parce que
qu'elles ne sont pas adaptées, les prisons,
à ce qu'elles ressemblent aujourd'hui, eh bien, malheureusement, aujourd'hui, pour un certain nombre, le passage en prison, l'après-passage en prison est pire que l'avant-passage en prison. Parce qu'il y a aussi tout un lien qui n'est plus fait. Mettre des gens entre quatre murs, ce qui peut être une solution.
De l'exemplarité de la peine, il n'y a plus de peine aujourd'hui, il n'y a plus de peine exécutée, c'est ça le problème.
Parce que la justice n'a pas le temps de la traiter.
Parce qu'il
n'y
a pas de centre pour mineurs spécialisés, donc ils ne veulent pas les mettre avec des grands truands.
C'est ce que je dis, il faut créer des centres éducatifs.
90 000 ah oui. peines non exécutées ou des peines exécutées 3 ans après. Quelle est la valeur de la peine? Où est la punition pour ces jeunes qui sont aujourd'hui totalement impunis? Il n'y en a eu aucun d'arrêté, si
c'est
je
quand
ne
même
me trompe
la gauche
pas,
qui est revenue sur les peines planchées, si vous voulez.
Elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je crois qu'il faut reprendre une politique carcérale complète sur la réalité de la délinquance d'aujourd'hui, avec un plan massif de construction de centres éducatifs fermés, avec en face de ça des travaux d'intérêt généraux qui soient exécutés immédiatement.
Mais oui. Parce qu'ils ne le sont pas.
Mais c'est une question de moyens.
C'est une question de moyens. Allez, merci à tous les cas. Une précision d'un auditeur qui me dit l'argument de la non-réciprocité de la part des Irlandais me semble logique parce que la France n'extrade non plus jamais ses ressortissants et apparemment c'est une décision souveraine et non pas européenne. Voilà, j'aurais appris quelque chose ce matin. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.